Ilana Ferradian.
Il est 6h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous. Nous sommes le mardi 14 mai 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme chaque matin. 221e jour de guerre contre le Hamas. On en parle bien sûr sur Radio J. Ce matin consacré au Yom HaTzmaout, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Après un jour de deuil, le Yom HaZikaron, c'est un jour de joie aujourd'hui et on va en parler avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana.
Et aux couleurs d'Israël en plus ce matin, en bleu, que vous pouvez admirer bien sûr sur notre chaîne YouTube. Bonjour Greg.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Pas de touche bleue ce matin?
Non, c'est du blanc.
Je suis un petit peu déçue.
Ah bon, bah, c'est bien le blanc.
Bleu et blanc. Et rouge, non, il n'y a pas. Pour refaire une petite référence à la France. Bonjour Roman.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Roman, bien sûr. Tout au long de cette édition. Alors oui, on va parler de cet anniversaire de l'État d'Israël avec Pascal Sunshine également. Et puis avec une cérémonie qui avait lieu hier également à la Grande Synagogue de la Victoire. Notre journaliste Tanit Belaïch était sur place. Elle a pu interviewer notamment les organisateurs et faire une petite immersion en quelque sorte au sein de cette soirée. On en parlera bien sûr sur Radio J. Et puis on va parler d'une exposition ce matin avant 7h. Une exposition itinérante sur le 7 octobre qui se tient à Fontenay-sous-Bois. On en parle sur Radio J. Mais d'abord l'actualité à la une, 76e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, fête de l'indépendance marquée par la guerre et va toujours en cours contre le Hamas.
Et aussi par les massacres antisémites commis par le groupe terroriste le 7 octobre. Et ce n'est pas au Mont Herzl, mais dans les localités frappées que les torches ont été allumées hier soir. La cérémonie a été filmée à l'avance, sans public. Mais dans un message vidéo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à ce que tous les otages rentrent à la maison. Et le président de la Knesset, Amir Ohana, s'est adressé à eux.
Ce 76e anniversaire de l'État d'Israël n'est pas complet sans vous. L'État d'Israël n'a pas été là avec toute sa force le 7 octobre, mais depuis, l'État agit chaque jour pour vous faire rentrer chez vous au sein de vos familles. Tous ceux qui servent dans tous les services de sécurité de l'État d'Israël combattent sans cesse pour votre libération. Tous les Israéliens prie pour votre retour. Dans toutes les synagogues en Israël et en diaspora, on prie pour votre bien-être.
Le président de la Knesset, le Parlement israélien, Amir Ohana, traduit par I24 News. Et au vu du contexte, contrairement à la tradition, il n'y a pas eu de feu d'artifice à Tel Aviv et à Jérusalem. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui, en a profité pour prendre la parole et se féliciter de ce qu'il considère comme la revitalisation de la cause palestinienne.
Et puis, le président de l'État, Yitzhak Herzog, en anglais, lui, s'est adressé dans un message vidéo hier aux Juifs du monde entier.
Il a souligné combien ce Yom HaTzmaout est marqué par d'énormes perte et a évoqué la résurgence de l'antisémitisme qui, dit-il, nous rappelle pourquoi nous nous sommes relevés de la tragédie et nous avons trouvé la force et la détermination nécessaires pour établir un foyer national, le miracle qu'est Israël, a-t-il dit. Il a conclu son message sur ces mots: puissions-nous continuer à élever la voix et à lutter pour ce qui compte, la libération immédiate de nos otages.
100 000 Israéliens se sont aussi retrouvés hier soir sur la place des otages à Tel Aviv pour soutenir les familles des 132 captifs toujours aux mains du Hamas à Gaza.
Le rassemblement s'est ouvert avec une prière commémorative de Yitzhor, adaptée au massacre antisémite du 7 octobre. D'autres familles se sont, elles, retrouvées pour une cérémonie alternative à Binyamina, destinée à s'opposer à celle officielle du gouvernement. Geste choquant pour d'autres proches de captifs. Elles n'ont pas allumé les traditionnelles torches, mais les ont éteintes. Leur message: pas d'otages, pas d'indépendance.
Sur le terrain, Tzal l'a annoncé hier soir, 5 soldats israéliens en opération à Gaza ont été grièvement blessés ces deux derniers jours.
Parmi eux, deux membres de l'unité du génie Yahalom, grièvement touchés par des obus de mortier tirés contre eux dans le sud de la bande de Gaza, mais aussi un combattant de la brigade Givati lors d'un affrontement avec des terroristes dans le nord du territoire, et deux membres des Golani lors d'un accident opérationnel dans la zone frontalière près du kibboutz de Niram.
Le bilan humain des opérations militaires à Gaza revu à la baisse. Selon l'ONU, il y a deux fois moins de femmes et d'enfants palestiniens tués que ce qu'affirme le Hamas.
4500 femmes contre 9500 selon les précédents chiffres. 7 797 enfants contre plus de 14 000. Selon ce bilan, toujours très difficile à établir avec certitude au vu des combats en cours, il n'y aurait pas 35 000 morts comme l'indique le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, mais 24 686 Palestiniens tués depuis le début de la guerre.
La Turquie au chevet des terroristes du Hamas. Tout l'Occident les attaque en effet avec toutes sortes de munitions selon le président Erdogan.
Ankara a communiqué hier sur le nombre de terroristes soignés dans le pays. Ils sont 1000. Hier encore, le président turc a affirmé qu'appeler le Hamas une organisation terroriste serait, selon ses propres mots, cruel. Des propos tenus aux côtés du premier ministre turc lors d'une conférence de presse. Erdogan a rappelé que lui et le premier ministre turc que le premier ministre grec ne sont pas d'accord sur le sujet.
Et puis dans l'actualité internationale, Washington annonce l'octroi d'une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine dans les prochains jours.
Selon le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, les États-Unis font tout leur possible pour fournir des armes à l'Ukraine qui fait face à l'ouverture d'un nouveau front au nord de Kharkiv. Marie Mendras, spécialiste de la Russie sur LCI.
Kharkiv sera fermement défendu par l'armée, et aussi parce qu'on connaît moins en France, ce sont les comités de défense civile qui ont été créés en Ukraine dès l'annexion de la Crimée et l'occupation de l'Est du Donbass, donc au printemps 2014. Et donc les Ukrainiens se sont organisés en comités de défense civile, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque village, chaque localité, chaque arrondissement de ville.
Marie Mendras, spécialiste de la Russie.
Merci beaucoup. Eva Sauton vous retrouve tout au long de cette édition. La météo ce mardi 14 mai, des pluies se produisent des Pyrénées au nord et à l'est de la France et sont parfois même assez fortes. À l'ouest, le temps est instable avec des averses. Seule l'Alsace, finalement, échappe au mauvais temps. Côté température, il fera 16 degrés aujourd'hui à Paris, 21 à Marseille, 23 à Ajaccio. Et puis en Israël, des nuages à Jérusalem, 23 degrés, 24 à Tel Aviv, 32 à Eilat.
Radio G, le 6-9.
Merci de nous rejoindre sur Radio J ce mardi 14 mai, jour de Yom Hatzmaout, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondante Pascal Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous. On va évidemment revenir dans un instant sur cette grande fête de l'indépendance avec aussi ces rassemblements. Plus de 100 000 Israéliens rassemblés hier soir sur la place des otages à Tel Aviv aussi pour demander le retour des otages. Mais d'abord, ce qui se passe sur le terrain, bien sûr, comme chaque matin. Tzal l'a annoncé hier soir, 5 soldats israéliens qui étaient à Gaza ont été grièvement blessés ces dernières 48 heures.
Et sur le front sud, 3 divisions de Tsahal opèrent toujours dans la bande de Gaza, à Rafah, mais aussi plus au nord, dans l'enclave côtière, à Zetoun et à Jabalia, avec des combats intensifs. Depuis samedi, 5 soldats ont été gravement blessés dans différents accrochages, dont 2 soldats de l'unité commando Yalom, blessés hier par des tirs de mortier dans le sud de la bande de Gaza. Si l'opération à Rafah reste toujours limitée à l'est de la ville, dans le nord de la bande de Gaza, notamment à Jabalia, les combats ont repris à l'intensité du début de l'offensive terrestre. L'aviation a effectué plus d'une centaine de frappes au cours des dernières 24 heures. Le Hamas, lui, a continué à tirer contre l'ouest du Negev. Hier matin, 2 salves de roquettes qui n'ont pas fait de blessés. À Rafah, un employé de l'ONU a été tué par un tir de mortier contre son véhicule. On ne sait pas si le tir provenait de Tsahal ou bien du Hamas. Et puis, sur le front nord, 4 soldats de Tsahal ont été blessés hier par le tir d'un missile anti-char du Hezbollah à Iftar. Tire aussi sur Zarit et 2 drones ont explosé près de Beit Hillel sans faire de blessés. Tsahal a riposté par des frappes au sud Liban contre des positions du Hezbollah. Enfin, hier soir, l'aviation de Tsahal a abattu un drone tiré de l'Est avant qu'il n'entre sur le territoire israélien. Probablement une attaque lancée par une milice pro-iranienne en Irak.
Alors Pascal Sunshine, on en parlait évidemment de ce 76e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Aujourd'hui, après les larmes hier, le Yom HaZikaron, place au Yom Hatzmaout, à l'ombre de la guerre toutefois. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette grande journée qui a commencé hier soir ?
qu'elle est inédite, une atmosphère qu'on n'a jamais connue en Israël, mêlée évidemment de la joie de la célébration de Yom HaAtzmaout, car il n'y a rien à faire, ça reste évidemment un événement majeur pour les Israéliens. Mais une joie avec un trou à l'intérieur, une douleur que tous les Israéliens perçoivent et on l'a ressenti évidemment à travers les cérémonies qui ont été réalisées hier soir. Alors il y avait toujours cette cérémonie officielle traditionnelle au Mont Herzl d'allumage des flambeaux, de danse, de discours qui fait partie vraiment de ce folklore de Yom HaAtzmaout, sauf que cette année, la cérémonie, eh bien, elle a été enregistrée la semaine dernière sans public, donc dans des conditions tout à fait inédites, mais en respectant le rituel avec des flambeaux qui ont été d'ailleurs symboliquement allumés, non pas au Mont Herzl, mais puisque c'était préenregistré dans plusieurs localités de l'ouest du Negev, dans plusieurs kibboutzim qui avaient été attaqués par le Hamas. Donc à la fois la volonté de maintenir quelque chose de traditionnel, mais en même temps évidemment c'est impossible vu le contexte de la guerre. D'ailleurs donc il y a eu aussi au moins deux cérémonies alternatives qui ont été organisées par des familles de victimes, par des familles d'otages, une sur la place qui s'appelle désormais la place des otages à Tel Aviv, et puis une autre dans un amphithéâtre à Binyamina, un peu plus au nord en Israël. Une cérémonie intitulée « On éteint les flambeaux et on allume l'espoir ». C'était un pastiche en négatif de la cérémonie du Mont Herzl, avec des familles d'otages et de victimes qui ont symboliquement éteint les flambeaux pour allumer le flambeau de l'espoir, celui évidemment de la libération des otages, de la fin de la guerre. Et de l'espoir, évidemment, dans l'avenir de l'État d'Israël.
Avant de donner la parole à Eva Soto, dans le reste de l'actualité, Pascal, on souhaitait aussi vous faire réagir ce matin à ces tensions, le torchon brûle entre la Turquie et Israël, en tout cas, à nouveau, c'est toujours le cas depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire, quelle précision on peut apporter à cette situation? On sait que Erdogan a affiché notamment sa volonté de soigner plus de 1000 terroristes du Hamas en Turquie.
Oui, il y a une volonté claire du président islamiste turc de relancer son hostilité vis-à-vis d'Israël. Alors, on ne parle pas de rupture de relations diplomatiques, mais on a vu, il y a maintenant une dizaine de jours, la Turquie a annoncé qu'elle rompait ses relations commerciales avec Israël. Donc, l'arrêt total des importations, des exportations, ce qui a évidemment déjà des répercussions sur l'économie israélienne, mais qui en a aussi sur l'économie turque. D'ailleurs, qui contraint le président Erdogan à rétro-pédaler d'une certaine manière, car il comprend que son fanatisme a aussi un impact sur ses propres citoyens disons, handicapant aussi leur économie, mais il poursuit évidemment sa rhétorique extrêmement agressive à l'égard d'Israël. La Turquie qui se joint aussi à la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice. Donc à chaque fois une surenchère dans cette hostilité à Israël, qui s'explique aussi par la position un peu toujours entre deux chaises de la Turquie, qui rêve toujours de reprendre sa place de puissance hégémonique au Moyen-Orient, alors qu'elle est évidemment largement dépassée par l'Iran d'un côté et par l'Arabie Saoudite de l'autre.
Eva Soto.
Bonjour Pascal.
Bonjour Eva.
Il y a des informations contradictoires qui circulent concernant le bilan des Palestiniens tués à Gaza et l'ONU qui semble les revoir à la baisse.
Oui, absolument. Un rapport de l'ONU qui parle maintenant non plus de 34 000 victimes à Gaza, mais de 24 000 celles qui ont été formellement identifiées, qui indiquent aussi que le nombre de femmes et d'enfants tués à Gaza depuis le début de la guerre ne serait pas de 13 000, mais de 8 000. On se fondait jusqu'à présent évidemment uniquement sur les chiffres donnés par le ministère de la Santé santé du Hamas, évidemment, des chiffres dont on peut douter de la fiabilité. Donc là, c'est même si évidemment on reste dans des proportions importantes, cela permet quand même de remettre les choses en proportion et rappeler qu'Israël indique toujours que au moins la moitié des morts à Gaza sont des terroristes armés du Hamas.
Merci beaucoup Pascal Zonshine pour ces précisions ce matin. Merci d'être avec nous, bien sûr, comme chaque matin en direct. Rendez-vous un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
6h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 76e anniversaire de l'indépendance d'Israël, le Yom HaTzmaout, marqué par la guerre toujours en cours contre le Hamas et aussi les massacres antisémites. Dans les localités frappées, les torches ont été allumées hier soir. Dans un message vidéo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à ce que tous les otages rentrent à la maison. 100 000 Israéliens se sont d'ailleurs aussi retrouvés hier soir à Tel Aviv, place des otages, pour soutenir les familles des 132 captifs toujours aux mains du Hamas. Sur le terrain, Tsahal l'a annoncé hier soir, 5 soldats israéliens en opération à Gaza ont été grièvement blessés ces deux derniers jours. Et puis le bilan humain des opérations militaires à Gaza revu à la baisse. Selon l'ONU, il y a deux fois moins de femmes et d'enfants palestiniens tués que ce qu'affirme le Hamas. La Turquie au chevet des terroristes. Ankara a communiqué hier sur le nombre de terroristes du Hamas soignés dans le pays. Ils sont 1000.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition sur Radio J.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Et ce matin, on va écouter un chanteur que j'aime beaucoup, qu'on ne présente plus, Idan Rachel, qui a publié, qui a écrit beaucoup de chansons depuis le 7 octobre. Effectivement, la meilleure façon d'exprimer sa peine. Ce matin, on écoute Tarzor, revient en duo avec Ronnie Deloubi.
הפנים שבתמונות הכל עוצר מלחץ כשאתה לא כאן ומתעוררת מחלום מרגישה אותך קרוב אז קוראת לך מתוך הלילה תחזור תחזור היום כל כך רציתי שתגיע הזמן לרוץ הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן ומתעוררת מחלום מרגישה אותך קרוב אז קוראת לך מתוך הלילה
matin sur Radio J. Excellent réveil.
Le 6-9. Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Hier se tenait, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, les commémorations du Yom HaZikaron, le jour du souvenir pour les victimes des guerres israéliennes et pour les victimes de terrorisme. Des commémorations organisées partout en Israël, mais aussi en France. Et justement aussi pour le Yom HaZmaout, la grande fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Hier avait lieu une cérémonie à la Grande Synagogue de Paris. Notre journaliste Etanit Belaïch était sur place, donc dans le 9e arrondissement, pour assister à cette soirée organisée en temps de guerre.
Une cérémonie d'hommage aux soldats tombés le 7 octobre à la croisée de Yom HaZikaron et de Yom HaAtzmaout, la fête de l'indépendance d'Israël. C'est ce que proposait le consistoire derrière l'organisation de l'événement. Joël Mergui, président du consistoire de Paris.
Pour la première fois, ce Chag HaAtzmaut, ce Yom HaAtzmaut, je ne vais même pas dire Chag HaAtzmaut parce que la fête n'est pas là. Il est beaucoup plus axé sur le Yom HaZikaron et on fait un Yom HaZikaron et un Chag HaAtzmaout pendant la guerre, c'est-à-dire au moment où il y a encore des soldats qui meurent, des soldats qui se battent pour Israël. Et avec le drame que nous avons vécu depuis le 7 octobre, je pense qu'on est dans l'histoire, mais aussi on est dans le moment présent, d'un moment de douleur. Mais aussi, on le sait, parce que dans tous les moments de douleur de notre histoire, on sait que ça s'est terminé par la lumière de l'espoir. Et je pense que c'est ce qu'on manifeste ce soir. Je crois que la communauté juive a besoin de se retrouver. On l'a vu depuis le 7 octobre, plus que jamais. Se retrouver, bien sûr, pour pleurer, se retrouver pour prier, se retrouver pour penser aux otages, se retrouver pour soutenir l'État d'Israël qui aujourd'hui mène un combat, une nouvelle guerre de libération, une nouvelle guerre d'indépendance, parce qu'il faut qu'on prenne la libération de tous ses ennemis, et notamment du terrorisme, et nous retrouver aussi pour chanter un peu différemment. Je l'ai dit à Hanouka, je l'ai dit à Purim, je l'ai dit malheureusement le jour de Simchat Torah, pas pour chanter dans la joie, mais pour chanter avec foi.
Mais avant, les chants de foi et d'espoir vont s'enchaîner des portraits vidéo produits par le réalisateur Steve Suissa aux côtés du KKL. Des portraits de sergents, de caporaux, de soldats morts suite à la sanglante attaque du Hamas il y a 221 jours maintenant. Parmi eux, Hadar Ben Simon, jeune caporal franco-israélienne de 20 ans déployé à Zikim, à la frontière nord de la bande de Gaza.
Hadar et son jumeau Aviv naissent le 13 mars 2003. Elle grandit à Neve Ziv, à l'est de Naharia, avec ses deux frères et sa sœur. Hadar est charismatique. Elle aime le leadership. Elle est décrite par son frère comme la colonne vertébrale et la lumière de cette belle famille. Le 4 août 2021, elle s'enrôle comme combattante au sein du commandement du front intérieur. Elle est affectée à la base de Zikim, à la frontière de Gaza. À 6h30 du matin, le 7 octobre, les roquettes pleuvent. Les canons pneumatiques sont détruits par l'escadron de patrouille de la base navale d'Ashdod. Elle se prépare au combat. À 6h45, les tirs d'armes se rapprochent. Des douzaines de terroristes arrivent. Ils atteignent l'entrée de la base à 7h. Ils sont une dizaine de commandants à protéger la base militaire et leurs nouvelles recrues. Hadar envoie un message à sa sœur, Shahaf. Les terroristes sont à nos portes. Je n'ai plus qu'une balle dans mon chargeur. Shema Israël.
Hadar Ben Simon, qui perdra la vie au bout de 40 minutes de lutte acharnée contre les terroristes, sauvant, aux côtés d'autres officiers, 120 nouvelles recrues de Tsahal. Un travail de reconstitution de ses derniers instants de vie, très émouvant pour Steve Suissa.
C'était bouleversant, c'était émouvant, c'est transcendant, parce qu'on ne sait plus où se mettre. Mais c'est essentiel parce qu'on ne sait pas jusqu'où et combien on pourra apporter. Mais c'est très très important de devoir le faire parce que le travail et notre premier travail est de transmettre et j'espère d'amener les jeunes générations à avoir envie de se dire qu'on est de tout cœur avec ces familles qui ont perdu des enfants, qu'on est de tout cœur avec ces soldats qui sont tombés pour nous protéger, de nous aider à faire ce combat.
En ce jour du souvenir, la minute de silence a laissé place au kaddish qui a résonné dans la nef de la synagogue avant que le chauffard ne retentisse à son tour, le chauffard qui s'inscrit dans la mémoire du peuple juif. L'occasion pour le nouvel ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, de prononcer un premier discours plein d'optimisme pour passer à Yom HaAtzmaout.
Entre les murs de la synagogue de la Victoire résonne le souvenir du mariage du colonel Dreyfus à quelques années de l'acharnement antisémite dont il a été la cible. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale sanglante qui a marqué les entrailles de ce lieu. Le souvenir de pleurs versés pour les vies arrachées qui défendaient notre peuple. À ce moment de transition entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaout, où nous regardons le passé dans la douleur et l'avenir avec courage, chacun d'entre nous a un nom ou un visage en tête. Car nous connaissons tous au moins l'une de ces vies perdues ou de ces familles qui ont sacrifié pour la sécurité et la paix de l'État d'Israël. C'est pour la paix que nous prions trois fois par jour. Oseh shalom bimromav, ubarachamav, yaseh shalom aleinu ve'al kol Israël. Benomar Amen. Ensemble, nous continuerons à construire, à créer et à croire à un meilleur futur pour ceux qui ne sont plus là pour le voir et pour les générations à venir. Que la mémoire des héros d'Israël soit bénie, que les âmes disparues reposent en paix et que nos otages retrouvent leur liberté.
Un passage à la fête de l'indépendance de l'État hébreu marqué par les larmes d'émotion, larmes de fierté d'une jeune franco-israélienne porte-drapeau, Nolwenn Serfpari, encouragée dans son discours par le public.
Le peuple juif a toujours su se rassembler pour exprimer l'identité commune et dépasser les différences. Notre force réside dans notre union. Cette union est l'expression harmonieuse de toutes les musiques, les origines, les prières, les rêves et les luttes. Am Israël est une réalité de l'histoire du peuple juif. Un seul cœur bat au rythme de cette unité. Chaque juif est garant de l'autre. Am Israël Chai.
Et puis de la musique, beaucoup de musique pour fêter les 76 ans d'Israël, avec la voix d'Eden Golan, la représentante d'Israël à l'Eurovision, celle du cantor Yedi Diabloum, venu avec un orchestre chanter les plus grands classiques de la musique israélienne, ou encore celle du Chœur de l'Alliance, groupe scolaire fait de jeunes choristes de 10 ans à peine, avec une reprise d'Am Israël Chai d'Eyal Golan.
À la grande synagogue de la Victoire. Merci Edalit Belaïch pour ce reportage. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce matin. Ce matin, et on vous souhaite et on souhaite à Israël une très bonne fête de l'indépendance. Joyeux anniversaire, Israël.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 6h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de nous rejoindre. Comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce mardi 14 mai, 221e jour de guerre contre le Hamas. Et aujourd'hui, l'anniversaire d'indépendance de l'État d'Israël, 76 ans. Et on va faire le point d'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et oui, 76e anniversaire de l'État d'Israël, fête de l'indépendance marquée par la guerre, toutefois toujours en cours contre le Hamas.
Et aussi par les massacres antisémites commis le 7 octobre. Ce n'est pas au Mont Herzl, mais dans les localités frappées que les torches ont été allumées hier soir. La cérémonie a été filmée à l'avance, sans public, mais dans un message vidéo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à ce que tous les otages rentrent à la maison. Et le président de la Knesset, Amir Ohana, s'est aussi adressé à eux.
Ce 76e anniversaire de l'État d'Israël n'est pas complet sans vous. L'État d'Israël n'a pas été là avec toute sa force le 7 octobre, mais depuis, l'État agit chaque jour pour vous faire rentrer chez vous au sein de vos familles. Tous ceux qui servent dans tous les services de sécurité de l'État d'Israël combattent sans cesse pour votre libération. Tous les Israéliens prie pour votre retour. Dans toutes les synagogues en Israël et en diaspora, on prie pour votre bien-être.
Le président de la Knesset, le Parlement israélien, Amir Ohana, traduit par I24 News et au vu du contexte, contrairement à la tradition, il n'y a pas eu de feu d'artifice à Tel Aviv et à Jérusalem. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui, en a profité pour prendre la parole et se féliciter de ce qu'il considère comme la revitalisation de la cause palestinienne.
Quant au président de l'État, Yitzhak Herzog, en anglais, il s'est adressé dans un message vidéo aux Juifs du monde entier.
Il a souligné combien ce Yom HaAtzmaout était marqué par d'énormes pertes. Il a évoqué la résurgence de l'antisémitisme qui, dit-il, nous rappelle pourquoi nous nous sommes relevés de la tragédie et nous avons trouvé la force et la détermination nécessaires pour établir un foyer national, le miracle qu'est l'État d'Israël. Le président de l'État a conclu son message sur ces mots. Puissions-nous continuer à élever la voix et à lutter pour ceux qui comptent, la libération immédiate de nos otages.
Justement, 100 000 Israéliens se sont aussi retrouvés hier soir sur la place des otages à Tel Aviv pour soutenir les familles des 132 captifs toujours aux mains du Hamas à Gaza.
Le rassemblement s'est ouvert avec une prière commémorative de Yitzhor, adaptée au massacre antisémite du 7 octobre. D'autres familles se sont retrouvées pour une cérémonie alternative à Binyamina, destinée à s'opposer à celle officielle du gouvernement. Geste choquant pour d'autres proches de captifs. Elles n'ont pas allumé les traditionnelles torches, mais les ont éteintes. Leur message, pas d'otages, pas d'indépendance.
Sur le terrain, Tzal l'a annoncé hier soir, 5 soldats israéliens en opération à Gaza ont été grièvement blessés ces 2 derniers jours.
Parmi eux, 2 membres de l'unité du génie Yahalom, grièvement touchés par des obus de mortier tirés contre eux dans le sud de la bande de Gaza, mais aussi un combattant de la brigade Givati lors d'un affrontement avec des terroristes dans le nord du territoire et 2 membres des Golani lors d'un accident opérationnel dans la zone frontalière près du kibboutz de Niram.
Le bilan humain des opérations militaires à Gaza revu à la baisse. Selon l'ONU, il y a 2 fois moins de femmes et d'enfants palestiniens tués que ce qu'affirme le Hamas.
4500 femmes contre 9500 selon les précédents chiffres, 7797 enfants contre plus de 14 000. Selon ce bilan, toujours difficile à établir et élever, avec certitude au nom, au vu des combats toujours en cours, il n'y aurait pas 35 000 morts, donc, comme l'indique le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, mais 24 686 Palestiniens tués depuis le début de la guerre.
La Turquie, au chevet des terroristes du Hamas, tout l'Occident les attaquerait avec toutes sortes de munitions, selon le président Erdogan.
Et Ankara a donc choisi hier de communiquer sur le nombre de terroristes soignés en Turquie. Ils sont 1000. Hier encore, le président Erdogan a affirmé qu'appeler le Hamas une organisation terroriste serait cruel. Des propos tenus aux côtés du premier ministre grec lors d'une conférence de presse. Erdogan a rappelé que lui et le premier ministre grec ne sont pas d'accord sur le sujet.
Dans l'actualité internationale, Washington annonce l'octroi d'une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine dans les prochains jours.
Selon le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, les États-Unis font tout leur possible pour fournir des armes à l'Ukraine qui fait face à l'ouverture d'un nouveau front au nord de Kharkiv. Marie Mendras, spécialiste de la Russie sur LCI.
Kharkiv sera fermement défendu par l'armée, et aussi parce qu'on connaît moins en France, ce sont les comités de défense civile qui ont été créés en Ukraine dès l'annexion de la Crimée et l'occupation de l'Est du Donbass, donc au printemps 2014. Et donc les Ukrainiens se sont organisés en comités de défense civile, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque village, chaque localité, chaque arrondissement de ville.
Marie Mendras, spécialiste de la Russie.
Merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition sur Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur cette antenne. On va parler évidemment de Yom Ha'atzmaout, les Israéliens qui ont célébré hier soir l'anniversaire de leur indépendance, mais sans faste, hein, sans réelle festivité, c'est vrai, cette année, en raison de la situation, la captivité des otages. Notamment, on va en parler, mais d'abord, c'est le Dvar Torah du jour avec le Rav Mevorar Zerbi. Rav, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Chag Sameach en ce jour de Yom Ha'atzmaout, 76e anniversaire de l'État d'Israël. 76, 7, 6, un peu l'énergie du 7, le Shabbat, qui va s'appuyer sur les 6 jours de la création. Le Shabbat, il y a ici quelque chose de fondamental. 76, c'est 4 fois 19, 4, comme dans la dimension de la libération, les quatre verbes de la libération, on comprend le soir du Seder, car il y a 4 enfants, le soir du Seder, il y a 4 questions, le soir du Seder, quand on révise un texte, on doit le réviser 4 fois, et quand, avant de l'enseigner, et quand on va voir les 4 niveaux d'études, comme les 4 parties de la prière, 4 fois 19. 19, c'est justement le nombre de bénédictions qu'il y a dans la Amida, dans la prière par excellence. Mais 19, c'est l'équilibre. L'équilibre entre 12 mois lunaires et une année solaire. Car la dimension d'année au niveau solaire est arbitraire. La notion d'année au niveau lunaire est arbitraire. La différence entre 12 mois lunaires et un an solaire, c'est 11 jours très exactement. Et pour qu'on ait un calendrier où les fêtes soient toujours calé sur les saisons, eh bien, on a sur un cycle de 19 ans, oui, 19 ans, 7 années qui sont des années embolismiques, des années à 13 mois, pour rééquilibrer les 11 jours de décalage qu'il y a entre 12 mois lunaires et une année solaire. 19 ans. 19 ans, ben, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ça s'est composé en 19 ans à Kadesh, un endroit, ils n'ont pas bougé pendant 19 ans d'un endroit, et 19 ans pour toutes les autres étapes dans le désert. 19 ans. C'est remarquable ce lien avec aussi le Shabbat. Le Shabbat, nous sommes aujourd'hui le 14 mai. 14 mai, mais historiquement c'est le jour de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Sauf qu'à la base, la fin du mandat britannique c'était le 15 mai. Pas le 14, seulement le 15 mai, c'était un Shabbat. Et on n'a pas voulu faire la proclamation de l'État d'Israël le jour du Shabbat. Non, pas de transgression du Shabbat pour proclamer l'État d'Israël. Alors ça a été avancé d'un jour, le 14 mai, comme aujourd'hui. Ah mais, aujourd'hui, en date hébraïque, on est le 6 Iyar. Historiquement, le Yom Ha'atzmaout, c'est pas le 6 Iyar, mais le 5 Iyar. Ah, ben, le 5 Iyar n'est fêté comme jour de Yom Ha'atzmaout que quand il tombe un mercredi. S'il tombe un autre jour que le mercredi, il est soit repoussé, soit avancé. Pourquoi ? Pour ne pas risquer que les célébrations, les commémorations, risquent de transgresser le Shabbat. Shabbat est une date, un jour ô combien important. Pour l'État d'Israël, pour Israël, dans notre lien avec la terre d'Israël. Remarquable. La guerre de Kippour avait commencé un 6 octobre. C'était Kippour et c'était Shabbat. 50 ans juste après, 50 ans en 2023, c'est le 7 octobre qui a été choisi, qui était un Shabbat et Simchat Torah en Israël pour cette guerre dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'était c'est aussi un Shabbat. Alors le Shabbat est là. Le Shabbat qui est dans le lien, dans la Kedusha, dans la sainteté, en ce 76e anniversaire de l'État d'Israël. Un moment fort pour penser à la force et la puissance du Shabbat. Comme il est marqué, « Veshamru beni Israël est à Shabbat, et les enfants d'Israël garderont le Shabbat. » Et on dit plus que ce que les enfants d'Israël ont gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui les a gardés. Alors, Chag Sameach en ce jour de Yom HaAtzmaout.
Dvar Torah, du Rav Mevorar Zerbib, et encore une fois, Yom Houledet Sameach Israël, un excellent anniversaire à l'État d'Israël.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian, avec un invité politique chaque jour, c'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h.
Inscription obligatoire sur agencejuive.org.
L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
10h40, tout de suite votre carte postale d'Israël, Microsion avec Xavier Nataf.
Israélien, la Knesset, a adopté une loi permettant de piloter des véhicules de covoiturage autonomes, comme des taxis et des bus, avec des passagers, mais sans chauffeur, sur les routes israéliennes. Du coup, l'arrivée de ces robots-taxis et lignes de bus est prévue à Tel Aviv pour dans quelques mois, dans le but de réduire les embouteillages tristement célèbres du pays et d'améliorer les services afin d'encourager l'utilisation des transports publics à la mauvaise réputation. Le passage à des flottes de bus autonomes et sans chauffeur permettra également de rationaliser le système de transport public, d'améliorer le niveau de sécurité et de remédier à la pénurie de chauffeurs, le tout en quelques années. La loi récemment adoptée permet de créer une infrastructure réglementaire avancée pour tester les véhicules autonomes sans conducteur et positionne Israël et les entreprises israéliennes comme leader mondial dans ce secteur. La société Mobileye, une filiale d'Intel spécialisée dans la conduite autonome et basée à Jérusalem, possède actuellement la plus grande flotte internationale de véhicules autonomes, avec des pilotes à Munich, Détroit, New York, Tokyo et plus récemment Paris. La société Intel teste des véhicules autonomes en Israël depuis 2018. Les premiers robots-taxis devraient être des SUV électriques à 7 places et propulsés par le système de conduite autonome entièrement intégré Mobileye Drive, développé spécifiquement pour les services commerciaux de covoiturage sans conducteur.
Micro-Sillon, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
La Tikva ce matin, et oui, chanson de circonstance à l'occasion de Yom HaAtzmaout. C'était le 14 mai 1948, le jour où David Ben-Gurion proclamait officiellement à Tel Aviv la naissance de l'État d'Israël. Tel Aviv, dans la galerie principale du musée, ornée de drapeaux bleus et blancs. Il est 16h quand David Ben-Gurion, futur Premier ministre de l'État d'Israël, est Premier ministre de l'État d'Israël, 61 ans, alors président du Conseil national juif, prend la parole lors d'une courte cérémonie de 32 minutes. Il est entouré des membres du Conseil national sioniste et sous un portrait de Théodore Herzl, Ben-Gurion lit un texte lu, revu et corrigé jusqu'à la dernière minute, dans lequel il annonce la fondation de l'État d'Israël. Écoutez. C'est le droit naturel du peuple juif d'être comme n'importe quelle autre nation, autonome, dans un État souverain, qui ouvrira les portes de sa patrie à tous les Juifs et accorder au peuple juif un statut égal de droit parmi les autres nations. Nous nous sommes donc réunis, nous, les membres de l'Assemblée du peuple, représentants du Yishuv juif et du mouvement sioniste, en ce jour de l'achèvement du mandat britannique sur la terre d'Israël, en vertu de notre droit historique et naturel, et sur la base d'une résolution des Nations Unies, nous proclamons la création d'un État juif sur la terre d'Israël, l'État d'Israël. David Ben-Gurion, les États-Unis du président Truman au bout de 10 minutes et l'URSS de Staline trois jours plus tard sont les premiers qui reconnaîtront l'existence d'Israël. Mais une euphorie hélas de très courte durée puisque dès le lendemain de cette proclamation, les pays arabes voisins, soutenus par la Ligue arabe, déclareront immédiatement la guerre à Israël.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. 6h45, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 76e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Yom HaAtzmaout marqué par la guerre toujours en cours contre le Hamas et aussi les massacres antisémites commis par le Hamas le 7 octobre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à ce que tous les otages rentrent à la maison. Quant au président de l'État, Isaac Herzog en anglais s'est adressé dans un message vidéo aux Juifs du monde entier. 100 000 Israéliens se sont aussi retrouvés hier soir sur la place des otages à Tel Aviv pour soutenir les familles des 132 captifs toujours aux mains du Hamas à Gaza. Sur le terrain, Tsahal l'a annoncé hier soir, 5 soldats israéliens en opération dans la bande de Gaza contre le Hamas ont été blessés ces deux derniers jours en opération. Le bilan humain des opérations militaires à Gaza revu à la baisse. Selon l'ONU, il y a deux fois moins de femmes et d'enfants palestiniens tués que ce qu'affirme le Hamas.
Merci beaucoup Eva Soto. Prochain rendez-vous avec l'actualité avec vous, ce sera à 7h15. 7h, le journal d'Israël avec les studios Qualita.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Mila, le mot du jour. Et oui, on apprend l'hébreu chaque jour sur Radio J avec un mot et avec, bien sûr, comme depuis le début de cette semaine, Eli Cohen. Bonjour Eli.
Shalom. Shalom les koulam, shalom la maazinim.
Et oui, boker tov. Alors aujourd'hui, vous vous penchez sur le mot kasher. Vous allez nous dire ce qui est kasher ou non kasher.
Ah oui, non, je m'autoproclame pas du tout chômeur. Hein. Loin de moi cette idée, je n'aurai pas l'outrecuidance d'outrepasser mon périmètre de compétences. Je reste modeste et en hébreu, ça se dit katonti. Je suis tout petit.
Bah alors, vous avez dit que vous alliez nous parler de kasher, de pas kasher, de kashrout.
Oui, plutôt du mot kasher, qui, comme beaucoup de mots, ont subi une sorte de glissement sémantique. Je vous explique. Dans la Bible, on parle déjà de cette notion, mais sauf que l'on dit que lorsqu'un animal est impropre à la consommation, il est impur. On ne dit pas il est kasher ou pas kasher, il est impur. Mmh. Or, depuis le Talmud, on parle plutôt du fait qu'il est valable ou non valable. Ah, là, on s'approche de la vérité.
Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée, Eli? Kasher ne veut pas dire pur.
Non. Kasher signifie apte, en fait. Apte à la consommation, ici. Oui, l'idée de cette racine, c'est vraiment l'aptitude. Regardez plutôt. Kosher, ça signifie l'aptitude physique, la forme, comme dans Hadar Kosher, une salle de sport, ou Ani Bekosher, je suis en forme. Ouais, ce matin, je suis en forme. Ani Bekosher. Et il y a Harshara, qui désigne une formation professionnelle. Le mot Mursha ou Mursheret signifie talentueux, talentueuse. Mais ce mot s'applique aussi à la viande, où il signifie kachériser. Bassar Mursar. Ici, ça veut dire de la viande. Enfin, ça veut pas dire que la viande est talentueuse ici. Hein. La viande est cachérisée. Hein. Mais donc le contexte est essentiel, Ilana.
Bon, j'imagine que ce mot est courant dans la Bible.
Non, pas du tout. Le mot kasher lui-même ne se trouve qu'une seule fois. Bien sûr, des verbes utilisent cette racine, mais le mot en tant que tel est vraiment utilisé une seule fois. Et ce n'est pas en rapport avec la nourriture.
Ah oui.
Comme je vous l'ai dit, on parle de nourriture pure et impure dans la Bible. Tahor, pur. Tamé, impur. Kasher apparaît donc dans la Bible, dans le livre d'Esther, Megillat Esther. Vatomer im alameler tov im atzati chen lefanav kasher hadavar. Voilà, donc signifie, ici, ça signifie que la chose est valable. C'est quand Esther se, ouais, comment dire, se plaint auprès de Achashverosh. Hein. Alors, donc si en vérité, vous avez compris l'étymologie de ce mot.
Bien sûr. Bah, si je comprends bien, c'est plutôt récent finalement que le mot kasher est vraiment utilisé pour la nourriture, Élie.
Oui, on va dire que c'est relativement récent. Je dis bien relativement, parce que ça fait moins de 2000 ans, puisque c'est dans le Talmud que le mot kasher est utilisé comme nous le connaissons aujourd'hui. Et en hébreu, ça dépend de ce que vous voulez dire. Ouais. Il faut le décliner au féminin ou au pluriel. Bassar kasher, la viande kasher. Misada kshera, un restaurant kasher au féminin. Ou mutsarim ksherim, des produits kasher.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi, puisque les Anglais, eux, ne disent pas kasher, mais kosher. Alors, pourquoi les Anglais, les Américains prononcent comme ça le mot kasher?
Oui, alors rien à voir avec kosher en hébreu, qui signifie l'aptitude physique. Enfin, c'est la même racine, mais les Américains, c'est pas pour ça qu'ils, c'est pas parce qu'ils sont passionnés par la musculation. Hein. En fait, c'est juste que les Américains prononcent à la sauce yiddish.
Ah, ouais.
Ils disent koisher au lieu de kasher, ah, oui. Ils disent shoybes au lieu de shabbat, ils disent choylos au lieu de chalot.
Vous êtes d'origine ashkénaze, vous, non?
Pas du tout. D'ailleurs, ma prononciation, je m'excuse auprès des auditeurs hein, si j'écorche le yiddish.
Il me semble, Élie, que dans la communauté juive française, le domaine de compétence du mot kasher, c'est un petit peu élargi.
Oui, en effet, tout peut être kasher ou non kasher de nos jours. Ce boulot est-il kasher? Ce boulot est cachère ou il n'est pas cachère? On comprend ce que ça veut dire. On peut parler aussi d'un garçon ou d'une fille qui est cachère ou pas.
Ah ouais.
Je vous laisse deviner ce que ça veut dire.
D'accord.
Bref, vous voyez un peu le glissement. Ce mot est tellement omniprésent dans la communauté juive à travers le monde que même Louis de Funès dans Rabbi Jacob a rendu hommage à ce mot. Rappelez-vous, cher Lévi, cher cachère.
Merci beaucoup, Élie Cohen. Et pour une formation plus complète, rendez-vous sur votre site à cours-d'hébreu.com.
Le 6-9, Hélène Ferradian.
6h51, Raïm Nissenbaum est avec nous pour un jour, une mitzvah. Raïm, bonjour.
Bonjour à tous. Intéressons-nous aujourd'hui, si vous le voulez bien, au plus grand titre de gloire qu'on puisse donner dans les communautés juives, celui de Talmid Chacham, ce qui désigne celui qui a étudié la Torah profondément, qui connaît réellement notre sagesse. Bien, très littéralement, si on traduit ce terme, il signifie élève sage. Cela peut paraître surprenant. Pourquoi faire cohabiter l'élève et le sage dans la même appellation? Cet homme doit-il être encore considéré comme un élève alors qu'il a certainement lui-même ses propres des disciples? Eh bien justement, ce titre est un enseignement pour celui-là même qui le porte et bien sûr pour les autres. Il ne peut être considéré comme véritablement chacham, sage, que s'il est toujours à ses propres yeux un talmid, un élève. En effet, la Torah, parole de Dieu, expression de sa sagesse, est infinie. Son étude n'a pas de limite. Aussi, tout homme, quel que soit son degré de connaissance préalable, a toujours quelque chose d'autre, de nouveau, d'important à y trouver. Et devant la parole de Dieu, ce sentiment de contentement de soi qui pourrait pousser à se qualifier de sage ne peut que disparaître. Devant la divinité, on ne peut plus être qu'un talmide, un élève, un disciple. Oui, c'est bien ainsi qu'il faut comprendre le titre. Élève, c'est un beau nom. Si on le refuse, on n'est pas digne de celui de sage. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Raïm Nissenbaum. On vous retrouve d'ailleurs, Raïm, dans quelques instants à partir de 7h05 pour votre chronique littéraire de Aleph à Tav.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9, Hélène Ferradian. Radio J.
Et comme tous les matins, les amis, un point sur l'infotrafic en région parisienne. Et ça se passe en ce moment, un accident sur la Nationale 12 vers la province à Versailles. Effectivement, suite à un accident impliquant un poids lourd, la sortie numéro 2 en direction de Versailles-Centre, Porchefontaine et Jouy-en-Josas est fermée pour une durée indéterminée. Dans les transports en commun ce jour, trafic interrompu sur la ligne R du Transilien entre Melun et Montereau via Hérissy dans les deux sens et jusqu'à 7h15. Enfin, sur les lignes de RER sur la ligne C, notamment, des trains sont supprimés. Le train Gotha au départ de la gare du pont de Rungis. Sur la ligne E également, les correspondances justement avec le RER C et le métro 1 se font par l'extérieur de la gare en passant par la place de la Porte-Maillot. Et puis enfin, si vous empruntez le tram 12 Express, sachez que la circulation est affectée de Massy-Palaiseau vers Évry-Courcouronnes en raison d'un train en panne au niveau de Massy-Europe.
Radio J.
Le 6-9, Hélène Ferradian.
Radio J.
Plus que quelques jours pour en profiter de cette exposition itinérante sur le 7 octobre qui a posé ses valises à Nogent-sur-Marne. L'exposition 7 octobre 2023, le jour de la terreur. On en parle justement ce matin avec Serge Belaïch, coordinateur de cette exposition et également président de l'Union communautaire des associations juives de Fontenay-sous-Bois. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, on parle de cette exposition qui a lieu déjà depuis plusieurs jours et je crois qu'il ne reste plus que deux jours puisque ça s'achève le 16 mai. Donc pour en profiter, de quoi s'agit-il exactement ?
Bah écoutez, c'est une exposition qui est partie d'une initiative communautaire et avec donc l'Union communautaire de façon juive de Fontenay-sous-Bois. Et comme à Fontenay-sous-Bois, nous avons également un collectif du 7 octobre section Fontenay-sous-Bois, sur une idée donc de l'UQF de monter une exposition pour les raisons que vous imaginez, faire passer le message, de diffuser le plus amplement possible et surtout dans le milieu extra-communautaire. Et donc avec donc des gens, des bénévoles, des certainement pas des spécialistes en art ou oui. en musée et graphie. Nous avons monté cette exposition qui est composée de deux parties. Une partie avec de grands calicots qui retracent effectivement l'histoire du 7 octobre, mais surtout, nous voulons montrer comment c'était avant le 7 octobre et comment la situation a évolué et au 7 octobre, et également d'une série de 121 photos qui ont été prises par un membre de l'équipe,
oui.
Pour ne pas noter Dan Nataf en particulier et Samuel Aflan, qui sur place sont partis, ont pris des photos de Niroz, de Rehim, de là où s'est passé Nova, etc.
Ouais. Et ce qui est important aussi, c'est que cette exposition est une forme de contre-pied, de réponse à une autre exposition pro-Gaza qui avait été organisée justement à Fontenay-sous-Bois.
Oui, alors c'est ça. Il y avait une petite exposition et on avait voulu non pas l'idée première n'était pas d'être contre, mais d'être plutôt pour d'être proactif que de réagir. Il se trouve que dans le calendrier, elles ont été l'une après l'autre à quelques jours d'intervalle. Nous l'avons exposée en premier à Fontenay-sous-Bois dans des locaux prêtés par la mairie de la ville, à la maison du citoyen. Et puis, il se trouve qu'elle a eu un succès qu'on n'attendait pas.
Ouais. Là,
franchement, on n'attendait pas. Puisque elle est partie dans un premier temps à Toulouse. Là, elle termine une quinzaine à Nogent. La semaine prochaine, elle sera dans la communauté au 31 rue Montévidéo. Puis, le Mairie de France nous l'a demandé, qui va l'exposer à la mairie du 16e, du 2 au 6. Et il est question, quoi, on nous l'a demandé pour toute la région Occitanie, donc qui va circuler pendant un mois dans la région Occitanie.
Donc une exposition itinérante effectivement sur le 7 octobre. Vous l'avez dit, donc à Nogent-sur-Marne, ça se termine le 16 mai. Donc je pense qu'il faut faire, il faut faire assez vite. On peut y aller librement, pas besoin d'inscription particulière, Serge.
Non, pas du tout, pas du tout. Alors en général, il y a toujours un membre de la Maison de la Culture Juive. Avec qui a été ma partenaire pour la diffuser sur nos gens. Il faut aller aux heures d'ouverture, quoi. Et c'est fermé. Alors, il faut fermer les jours fériés. Donc, dimanche, qui sera le dernier jour, il n'y en a pas.
Eh bien, si vous êtes à Nogent-sur-Marne, c'est l'occasion de découvrir cette exposition. Et puis, vous l'avez dit, effectivement, pour terminer, aujourd'hui, cette exposition est confirmée dans la communauté Montévidéo de Paris, dans le 16e arrondissement, également dans le 15e.
À partir de vendredi.
Samedi,
Shabbat, elle sera visible, et pendant une semaine.
Et après, à Levallois, je crois.
Alors, Levallois, on a pas fixé les dates, mais il y a Levallois qui est prévu. Après, ça sera surtout à la mairie du 16e avec le mairie de France. Ça sera Lyon. Elle va partir à un moment avec Lyon.
Montpellier aussi et Perpignan.
Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire que le Fonds social de Lyon a sponsorisé la conception de cette exposition. Donc, elle va partir une semaine ou deux à Lyon dans les semaines qui viennent.
Eh bien, merci beaucoup, Serge Belaïch, de nous avoir fait découvrir cette exposition itinérante sur le 7 octobre. Effectivement, les massacres du 7 octobre, des vies fauchées en plein vol. On peut encore en profiter si on est à Nogent-sur-Marne jusqu'après-demain. Et puis après, ce sera donc dans d'autres villes de France et donc vendredi dans le 16e arrondissement. Merci beaucoup, Serge Belaïch, et à très bientôt sur Radio J. Ne bougez pas, les amis, dans quelques instants, le Journal d'Israël avec les studios Qualita, notre correspondant Daniel Haïk, évidemment, un journal très spécial consacré aux cérémonies du Yom HaTzmaout, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, les Israéliens qui ont célébré depuis